note tout de suite, ce n'est pas la dernière de l'année, mais je vais attendre, puisqu'il y a encore des gens qui ne sont pas arrivés, je vais attendre à la fin du cours pour le mentionner, pour que tout le monde puisse être là. Donc, comme à l'habitude, on va commencer avec une petite révision de ce qu'on a vu la semaine dernière, à la leçon 11. Voilà, donc, qui peut me dire qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? De quoi on a parlé par rapport au royaume de Dieu? Enlevant la main. Paul, Edner. Je commence, là. Oh, non, j'ai dit Paul aussi, je savais que c'était sa faute. C'est clair. Hein? C'est pas clair, c'est Paul. Mais Claire, c'est pas ta femme. OK. Hey, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière, là? Come on. La semaine dernière, on parlait d'une nation. Ah, on parlait d'Israël, voilà. Et on a vu que Jésus avait offert d'abord le royaume aux Juifs? Oui, Jésus avait d'abord offert le royaume aux Juifs, mais comme ce royaume-là n'était pas comme ils s'attendaient, puisque eux, avec la révélation de l'Ancien Testament, avaient une vision très terrestre, si je peux dire, du royaume de Dieu, lorsque Christ est arrivé et a annoncé un royaume qui était spirituel, là, wow, ça ne marchait plus. Ce n'était pas ça qu'ils s'attendaient du tout. Et donc, ils ont rejeté le Messie. Dieu s'est donc choisi un autre peuple qui a appelé son Église. Et là, la semaine dernière, on a vu que le mot « ecclésia » voulait dire quoi? Ça veut dire plutôt « appelé hors de ». OK, « ecclésia » veut dire « appelé hors de », mais c'est le mot grec qui était utilisé dans la Septante, l'Ancien Testament qui était traduit en grec. C'est le mot qui était utilisé pour parler de l'Assemblée d'Israël dans le désert. Okay? Donc, on a vu que quand Jésus mentionne le mot « Église », « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église », il n'est pas en train de créer tout un nouveau concept. Il n'est pas en train d'arriver avec quelque chose que les gens ne comprenaient pas. Non. Il est en train de dire, il y avait une assemblée dans l'Ancien. J'avais déjà mon assemblée, j'avais déjà mon peuple, mais sur ta déclaration, Pierre, ou sur la personne de Christ lui-même, il va fonder une nouvelle assemblée, un nouveau peuple de Dieu, une Église, donc, qui va le représenter. Jésus manifeste donc par le choix du mot « Église » son intention de créer un nouveau peuple de Dieu en remplacement du peuple d'Israël qui avait rejeté le salut du Messie et son offre du royaume. Son statut plutôt de Messie et son offre du royaume. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le rejet du royaume de la part d'Israël était prophétisé dans l'Ancien Testament, mais comme un mystère. C'était quelque chose qui n'était pas clair, mais c'était néanmoins prophétisé dans l'Ancien Testament. Et on a vu que seul le ministère de Jésus nous a permis de comprendre le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Et ce rejet du royaume a aussi permis aux païens comme aux juifs d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais plutôt que d'entrer sur la base de la nationalité, quelle est la nouvelle base d'entrée dans le royaume de Dieu? La foi personnelle, exactement. Donc, dans l'ancienne alliance, tu entrais dans l'alliance de Dieu, tu entrais dans le royaume de Dieu sur la base de ta nationalité. Si moi, j'étais un païen et que je voulais entrer dans l'alliance de Dieu, il fallait que je me fasse juif, il fallait que je me fasse circoncis, que je suive les lois qui étaient pour le peuple d'Israël. Maintenant, le nouveau peuple de Dieu est offert tant aux Juifs qu'aux païens, et on entre dans ce peuple-là, non pas sur la base de la nationalité, mais sur la base de la foi personnelle. Et on a vu à la fin que Dieu n'avait pas abandonné son peuple, mais que après ce qu'on appelle le temps des nations, Israël national va se convertir à la foi de Jésus, et alors tout Israël sera sauvé. Et ce qu'on a vu aussi également, qui est très important, c'est une clé évidemment pour comprendre quel est le rôle d'Israël dans l'eschatologie, c'est que le salut d'Israël ne sera pas différent du salut de l'Église. C'est-à-dire que pour que Israël soit sauvé, il n'y a pas quelque chose de différent à faire que ce que nous on fait. Alors, qu'est-ce que ça prend à Israël pour être sauvé? La foi en Christ. Il faut qu'ils reconnaissent celui qu'ils ont percé, qu'ils acceptent que cet homme-là qu'ils ont crucifié il y a 2000 ans, c'était lui le Messie qui était attendu. Et s'ils mettent leur foi en lui, ils vont être sauvés et ils vont se joindre au peuple de Dieu, à l'Olivier, dont nous faisons partie aujourd'hui. Alors, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière par rapport à Israël. Et donc, maintenant, ce matin, c'est la dernière leçon sur le royaume de Dieu. Et si on se souvient un petit peu de notre définition du royaume de Dieu, on a vu que le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu vainqueur sur ses ennemis, n'est-ce pas? Le règne de Dieu vainqueur sur ses ennemis, faisant bénéficier les hommes des bénédictions du règne divin. Il y a des bénédictions à venir. Le royaume de Dieu qui est à faire maintenant, c'est le règne de Dieu dans nos vies qui nous fait déjà bénéficier des bénédictions à venir dont on peut bénéficier maintenant, dès aujourd'hui. On a vu aussi que ce règne-là se réalise en trois étapes. Alors, qui peut me dire quelles sont les trois étapes de la réalisation parfaite du règne de Dieu? La destruction du péché. Dites vos idées, puis je vais vous dire après si ça a de l'allure ou ça n'a pas d'allure. Le dernier ennemi, c'est la mort. La destruction du péché. La mort. Qui? La sanctification. On s'éloigne, là. On s'éloigne. Quelles sont les trois étapes de la réalisation complète du règne de Dieu? D'abord, tout de suite, mettre en perspective ce que Paul a dit, c'est pas ce que je cherche. Ce que Paul a tenté de mentionner, ce sont les ennemis de Dieu qui vont être détruits. Dieu va détruire trois ennemis. Et qui sont? Satan, le péché et la mort. Alors ça, ce sont les ennemis de Dieu qui doivent être détruits. Le dernier ennemi qui va être détruit, c'est la mort. Mais les trois étapes où ce royaume-là va s'établir, c'est pas tout à fait ça. Alors, je vous repose la question. Quelles sont les trois étapes de l'établissement du royaume de Dieu? Est-ce que le royaume de Dieu, dans l'Ancien Testament, vous aviez l'annonce du jour de l'Éternel? Dieu revient, il juge les ennemis, tout est détruit, il établit son royaume. Est-ce que c'est ça que Jésus est venu faire? Non. Oh, Jésus est venu amener le royaume, mais partiellement. Et on a vu que ce royaume-là va s'établir par étapes. De la même manière que la mort sur le péché s'établit par étapes, de la même manière que la victoire sur Satan, j'utilise la mort sur le péché, la victoire sur le péché s'établit par étapes, la victoire sur Satan s'établit par étapes, et la victoire sur la mort s'établit aussi par étapes. Quelles sont les étapes de la victoire sur la mort? Ça va peut-être vous donner un indice. Ah, la résurrection de Christ, première victoire sur la mort. Première étape. Ensuite, deuxième victoire. Ah, tu vas l'avoir, Hugues. Sa deuxième venue, non. Ben, non, mettons, non. La résurrection de qui? Notre résurrection à nous. Ah, alors, on parle de la première résurrection ici. Alors, on a vu que la première résurrection, ça pouvait signifier deux choses. Ça pouvait signifier soit la nouvelle naissance, si on est plutôt de tendance à millénariste, ou ça pouvait représenter la première résurrection avant le règne millénaire terrestre de 1000 ans. Okay? Donc, c'est une autre étape. Et la troisième étape? Non, je te parle de la troisième étape de la victoire sur la mort. Quelle serait la troisième étape de la victoire sur la mort? Christ ressuscite. Ensuite, première résurrection, que ce soit la nouvelle naissance ou une résurrection avant le millénium. Remarquez que la nouvelle naissance, si je suis un millénariste et je crois que le millénium est maintenant, la nouvelle naissance est la résurrection avant le millénium. Juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte, il n'y a pas de contradiction. La deuxième résurrection, Paul, voilà. Et qu'est-ce que c'est la deuxième résurrection? C'est la résurrection générale. Alors, c'est là où tout le monde ressuscite et là, ils sont jugés. Alors, on voit que le royaume de Dieu s'établit par étapes. Quelles sont maintenant ces trois étapes? La victoire sur le péché en trois étapes, la victoire sur Satan en trois étapes, la victoire sur la mort en trois étapes. Et quelles sont ces étapes-là? Repensez à ce qu'on vient de voir sur la mort. Vous devez comprendre ces choses-là, c'est important. La première victoire, la première étape de l'établissement du royaume, c'est faite quand? Pardon? À la résurrection, en fait, à la première venue de Jésus. On a vu quand Jésus chassait les démons, que c'était le royaume de Dieu qui commençait à envahir le royaume de Satan. Vous vous souvenez de ça? Donc, la première étape, c'était la première venue de Jésus de sa naissance ou de son ministère, si on veut, aller jusqu'à sa mort sur la croix. On a vu que c'est à la mort sur la croix qu'il a vaincu le péché. La première victoire sur le péché, c'est à la mort sur la croix. Donc, première étape, c'est de sa venue, finalement sa première venue de son ministère, aller jusqu'à sa mort, aller juste avant sa résurrection. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, La deuxième étape, non, la deuxième venue, ça va être la dernière étape. La deuxième étape, ça va être pendant le millénium. Alors, encore une fois, que le millénium soit présent spirituellement ou soit un règne terrestre à venir, ça ne change absolument rien, puisque c'est pendant ce millénium-là que Christ règne, et c'est pendant ce millénium-là que Satan est lié, et qu'il y a une victoire sur la mort, sur la mort parce qu'il y a déjà une résurrection spirituelle, et sur le péché parce qu'on est déjà délivré du péché, et sur Satan parce que Satan est déjà lié, il ne peut plus séduire les nations. Et encore une fois, que ce soit un millénium terrestre à venir ou le fait que Christ, que Satan est maintenant lié de fait que les nations ont accès au salut, ça ne change rien. Peu importe notre position eschatologique, l'enseignement sur le royaume de Dieu demeure. Les trois étapes demeurent, que le millénium soit spirituel maintenant ou terrestre à venir. Donc, première étape, la première venue de Jésus. Deuxième étape, le règne millénaire de Christ. Et la dernière étape, évidemment, c'est quand Satan et le péché vont être détruits et jetés dans les temps de feu. C'est à la fin du millénium, qu'il soit spirituel ou terrestre. Donc, ça, ce sont les étapes de l'établissement du royaume. Christ revient à la fin, c'est la dernière étape. Maintenant, la grande question, c'est quand est-ce que le royaume de Dieu va venir? C'est quand ce fameux jour de l'Éternel où tous les royaumes de la terre vont être détruits et où Dieu va instaurer son royaume? Ah là là là, ça c'est la deuxième venue, Hugues. T'avais hâte de le dire. Oui, oui, ça te brûlait les lèvres. Exact, on le savait, mais il y avait quand même, il fallait le verbaliser. Hein? Quand viendra le royaume? Alors c'est une question qui intrigue les croyants depuis toujours. Ça ne date pas d'hier. Alors, déjà dans l'Ancien Testament, les prophètes annonçaient l'avènement à venir du Messie comme étant le jour de l'Éternel. Donc déjà cette vision d'un jour de jugement où Dieu était pour venir, où détruire tous les royaumes, et là il créerait un nouveau royaume, ça c'était déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Et c'était déjà attendu, c'était déjà espéré. C'était l'espérance d'Israël, la venue du royaume, vous vous souvenez? Ils ont été déçus de voir ce que Christ voulait amener, mais leur attente, c'était le royaume de Dieu. Pour les croyants du Nouveau Testament, le retour de Christ, c'est notre espérance. Si je vous demande, qu'est-ce que vous espérez? Est-ce que vous espérez vivre 1000 ans dans le millénium? C'est ordinaire, là. C'est une petite espérance. Votre espérance, j'espère, c'est le retour de Christ. Tite 2, verset 13, nous mentionne qu'il parle et il dit « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. » Donc, avant de regarder le texte d'aujourd'hui, laissez-moi vous poser la question franchement. Quand est-ce que le Seigneur revient?
Bientôt.
Bientôt. Ah, on a des éléments. Bientôt. Ou qu'est-ce qui doit se produire avant son avènement? Ah, là, la question est plus claire. Un à la fois en levant la main. Hugues. La dernière personne païenne à se convertir, c'est là le retour du Seigneur. Donc, tu as une tendance prémillénariste dispensationaliste, je comprends bien. OK? Tu ne le savais probablement pas, mais ça, c'est une interprétation prémillénariste dispensationaliste. Puisque après que le dernier chrétien païen ou que le dernier païen à se convertir entre dans le royaume de Dieu, Dieu va faire un réveil auprès d'Israël. Et donc, il y en a qui disent que l'Église est enlevée à ce moment-là, puis qu'après ça, alors là, tu ne crois pas ça non plus? Bon, écoutez, je pense que en janvier, je vous l'ai mentionné, j'enseigne sur le labyrinthe du millénium. Si vous êtes mélangés actuellement, là, venez, vous allez l'être encore plus. Non! Non, vous ne serez pas plus mélangé, mais vous allez comprendre plus de choses. Parce que, vous savez, le gros problème de toutes ces positions eschatologiques-là, c'est que, à droite et à gauche, au fil de vos années de vie chrétienne, vous avez entendu diverses interprétations d'une position comme de l'autre, et jamais dans votre tête, vous avez sonder les Écritures pour voir vraiment c'est quoi que la Bible enseigne de A à Z. Et donc, si moi je prends une bride ici de un, je prends une bride de l'autre, puis je prends une bride de l'autre, je me retrouve avec une théologie au niveau de l'eschatologie qui est complètement éclatée, qui croit n'importe quoi, mais qui, parce qu'il y a un verset qui dit telle chose, puis ça a l'air avoir du sens, puis, mais en réalité, plusieurs d'entre vous, j'en suis absolument convaincu, ont des tendances dispensationalistes, mais vous ne savez pas du tout ce que c'est le dispensationalisme. Mais vous n'êtes pas dispensationaliste réellement, mais vous avez entendu des choses. OK? Donc, le cours sur le labyrinthe du millénium va explorer les quatre positions eschatologiques, que ce soit le post-millénarisme, que ce soit le prémillénarisme historique, le prémillénarisme dispensationaliste et l'amillénarisme. Et on va essayer de décortiquer tout ça, voir quels sont les points positifs de chacune de ces positions-là, quelles sont les différences de ces positions-là, et qu'est-ce que ça change d'avoir telle ou telle position? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'on est obligé de choisir? Est-ce qu'on peut croire un petit peu n'importe quoi? C'est ce qu'on va voir, mais en janvier. Ça, c'est juste pour vous titiller un petit peu. Donc, qu'est-ce qui doit se produire avant l'avènement de Jésus? On parle des signes. Ah, OK, on peut parler de l'apostasie, absolument. Qu'est-ce que c'est l'apostasie? Qui a mentionné ça en passant? Oui, Linda. Il n'y aura plus personne qui va croire. J'ose espérer que l'apostasie ne sera pas complète, qu'il va encore rester quelques-uns. Okay. C'est l'abandon de la foi, l'apostasie. Hein? C'est l'abandon de la foi. OK. Alors, on peut regarder tout de suite ce texte-là dans 2 Thessaloniciens 2-3. 2 Thessaloniciens 2-3. Paul dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition. Alors, je vous lance une petite réflexion aussi. De quoi il parle dans le contexte ici, Paul? Il parle du retour du Seigneur. Les gens croyaient dans l'église de Thessalonique. Il y en a qui lui disaient que le Seigneur était déjà revenu. Puis là, l'église était troublée. Parce que le Seigneur est revenu, mais où est-ce qu'il est? Et là, Paul leur dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut auparavant, donc avant que Christ revienne, il faut que l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'antéchrist. Donc, si vous n'avez pas vu l'apostasie et vous n'avez pas vu l'antéchrist, n'allez pas vous imaginer que le Seigneur est revenu. Hein? Le Seigneur n'est pas revenu. Il faut d'abord qu'on ait vu ça. Alors ça, c'est une piste intéressante parce que Paul ici laisse sous-entendre qu'on doit le voir et donc qu'on ne sera pas nécessairement enlevé avant l'apostasie et avant de voir l'antéchrist, puisque c'est un des signes précurseurs. Je vais voir l'homme impie avant que le Seigneur revienne. C'est ce que Paul dit dans Thessaloniciens. Matthieu 24, 11 et 12. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. En raison du progrès d'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et on a vu aussi, je vais mentionner tout de suite, beaucoup de personnes ont imaginé que l'Évangile prêché à toutes les créatures allait conquérir le monde entier. D'ailleurs, c'était la position post-millénariste. Hein? Il faut qu'on convertisse tout le monde. Tu cherches dans mes notes?
Non, c'est juste que c'est des signes avant l'enlèvement.
Oui? Des signes avant l'enlèvement plutôt que des signes avant l'enlèvement. Oui, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Lorsqu'on est enlevé, le Seigneur revient. OK? Alors là, c'est ça. Alors ça, c'est la question. Est-ce qu'on descend tout de suite ou est-ce qu'on ne descend pas tout de suite? Dépendamment de ta position. On reparlera de cette question-là, Paul, dans le prochain cours, par exemple. OK? Alors, beaucoup de gens ont imaginé que l'Évangile devait être prêché, qui doit être prêché, à toute créature, allait conquérir le monde entier. Vous savez, c'était la position post-millénariste, c'est-à-dire qu'on doit amener le royaume de Dieu sur terre. On va prêcher l'Évangile à toutes les nations, puis toute la terre va se convertir. Est-ce que c'est ça que la Bible enseigne? Non. L'Écriture n'a jamais enseigné cela. Non seulement elle dit que la majorité des hommes accepteront pas le message, mais elle dit aussi qu'à la fin des temps, un très grand nombre de chrétiens de nom abandonneront la foi. Donc, non seulement elle dit que l'Évangile ne couvrira jamais la terre, on n'arrivera jamais avec un monde, une planète où tout le monde a la foi, mais qu'au contraire, à la fin des temps, la foi va être encore plus rare qu'elle l'est aujourd'hui. Et il y a beaucoup de gens qui se disent croyants, qui vont abandonner la foi. Et je ne suis même pas convaincu que c'est une question de croyants chrétiens. Je crois que les gens vont abandonner la foi en Dieu en général. Et c'est ce qu'on voit déjà dans notre société. Quel est, d'après vous, l'élément le plus marquant pour amener l'apostasie? Qu'est-ce qu'on voit dans toute la société mondiale qui prépare l'apostasie? Il y en a qui ont une idée? Je vous partage mon idée personnelle. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Hein? Pardon? On rejette Dieu. C'est la laïcisation, mes amis. La laïcisation. Partout, le gouvernement, l'État, tous les gens deviennent laïcs. Donc, on évacue Dieu de notre gouvernement. On évacue Dieu de la société. On évacue Dieu des écoles. Et dans une génération ou deux, ça va faire des gens qui ne croient pas en Dieu bien, bien fort, ça. C'est sûr. Et c'est mondial, ce mouvement-là. OK? Donc, c'est juste quelque chose qui m'a frappé moi-même il y a quelques temps déjà de réaliser à quel point la laïcisation est le catalyseur qui va amener l'apostasie sur toute la terre. Parce que, je dis, déjà aujourd'hui, on parle des gens, des histoires de Jésus, puis tout ça. Puis les jeunes d'aujourd'hui, ils ne savent même pas ce que c'est, parce qu'à l'école, il n'y a personne qui leur enseigne ça. Hein? Bref, puis ce n'est pas les parents non plus, parce que les parents ne sont pas croyants. C'était une petite parenthèse. Revenons au signe. Qu'est-ce qui va se passer avant le retour du Seigneur? Hein? Jésus a mentionné différents signes. Vous vous souvenez, dans Matthieu? C'est-tu dans Matthieu? 100 fois et 100 lois. Donne-moi deux secondes. Bon, voilà. Alors, effectivement, on voit qu'un des signes, on peut le lire, c'est dans Matthieu, effectivement, Matthieu 24. Alors, on va voir que de faux Christ vont séduire beaucoup de monde, n'est-ce pas? On voit que des guerres vont éclater, que des famines vont sévir, la terre va trembler en plusieurs endroits. Rien d'anormal, on voit ça régulièrement. Les croyants vont être persécutés. Alors, encore une fois, c'est pas un signe que la terre va être chrétienne, non? Hein? Les chrétiens vont être persécutés. Beaucoup se trahiront et se haïront dans Matthieu 24, 10. L'Évangile va être proclamé dans le monde entier, Matthieu 24, 14. Puis le soleil va s'obscurcir, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, Matthieu 24, 29 et suivant. On voit dans Luc aussi que la mer va se déchaîner. Et évidemment, il y a la question de l'apostasie. Alors, toujours pour revenir au fait que la Terre ne se convertira pas, qu'on ne vivra jamais là, dans une planète chrétienne avant le retour du Seigneur, laissez-moi vous apporter un autre petit point de réflexion ici. On ne peut pas dire que Jésus ne revient pas parce que le monde n'est pas encore assez chrétien. OK, je vous pose la question. Est-ce que le Seigneur doit revenir au moment où il va y avoir assez de chrétiens sur la Terre? Non, on ne peut pas dire ça. Au contraire, ce qu'on pourrait dire, c'est que le Seigneur ne revient pas encore parce que le monde n'est pas encore assez incrédule. Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors voilà, le Seigneur ne revient pas parce qu'il n'y a pas encore assez de chrétiens. Le Seigneur ne revient pas parce que le monde n'est pas encore assez incrédule. Est-ce qu'on a des textes en Bible qui pourraient nous amener à comprendre cette notion-là de Dieu qui retient, si on veut, sa venue? Qu'est-ce que va être la venue de Christ quand il va revenir? Il vient pour quoi, le Seigneur Jésus? Il vient chez son Église, ouais, c'est vrai. Il vient établir le royaume, oui. Il vient juger les nations. C'est le jugement, c'est le jour du jugement quand il revient. Alors, pensons à Genèse 15, verset 16. « Alors que Dieu tardait à juger les Amoréens. » Vous vous souvenez quand Abraham était dans le pays, Dieu fait une promesse à Abraham. Il dit, « Je vais tout te donner ce pays-là. Et puis, dans plusieurs années, quand tu vas devenir un peuple, vous allez revenir dans ce pays-là. » Pourquoi? On va le lire ensemble. Ça dit, « À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Dieu promet à Abraham d'y donner une nation, mais il ne te la donne pas tout de suite parce que leur péché n'est pas encore à leur comble. Le péché va être à leur comble à un moment donné, là, ça va être ma colère, puis ça va être mon jugement, puis c'est par toi que je vais les juger, par ta descendance, en fait, que je vais les juger. OK? Donc, il ne faut pas oublier que au jour du Seigneur, au jour de l'Éternel, c'est la colère de Dieu qui se manifeste. Et donc, il va y avoir une augmentation de l'iniquité. Comme l'amour du plus grand nombre se... Je ne me souviens plus c'est quoi le texte exactement. L'amour du plus grand nombre va s'être refroidi. L'iniquité va avoir augmenté à les derniers temps. Donc, on doit s'attendre à ça. On doit s'attendre à plus d'opposition à l'Évangile que ce qu'on a encore maintenant. Est-ce qu'on a beaucoup d'opposition à l'Évangile? Pas ici, pas beaucoup ici, en tout cas. Mais ça commence. Ça commence. On n'a plus le droit de dire Noël dans les écoles. Hein? Les enfants font des points, gagnent des points, s'ils sont capables de placer trois phrases sans dire le mot Noël. Ils gagnent des points. C'est joyeuse fête, c'est plus Noël. Noël, ça fait référence à la naissance de Christ. Il ne faudrait surtout pas que nos enfants soient inculqués sur le fait qu'un jour, il y a 2000 ans, il y a un Messie qui est venu. Comment voulez-vous qu'ils croient? Par contre, je vous le dis, ça nous remet tout un fardeau sur les épaules à nous, l'Église. Parce qu'on a une mission à faire. On va y arriver. Donc, le Seigneur va revenir et nous, on est dans l'attente. Et malgré tout ce qui doit arriver, comment la Bible nous exhorte-t-elle à vivre dans cette attente? Comment la Bible nous exhorte à vivre dans cette attente dans laquelle on est présentement? Comment est-ce que la Bible nous exhorte à vivre? Nous exhorte à veiller. D'accord, c'est important qu'on soit prêt. C'est intéressant de parler des choses du royaume et de la fin des temps, mais si on n'est pas trouvé digne, qu'est-ce qui va arriver de nous? Alors, on doit veiller. Matthieu 24, 42 nous dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. » Matthieu 25, 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Donc, il est évident que veiller, ça ne veut pas dire de rester réveillé tout le temps. On est-tu d'accord avec ça? Juste pour être sûr qu'on ne s'en va pas dans une mauvaise direction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, veiller, si ça ne veut pas dire de ne pas dormir? Qu'est-ce que ça veut dire?
D'être conscient de ce qui se passe.
Lire la Bible, ouais, c'est important, connaître la parole de Dieu. Venir à l'école du dimanche. Non, mais je peux bien quand même prêcher pour ma paroisse un petit peu. Oui? Ouais. Plus important peut-être encore, il ne faut pas qu'il y ait des auditeurs. La Bible nous dit d'être des acteurs, d'agir. Donc, c'est quoi ton commentaire? Veille à notre sanctification. Donc, on a des choses à faire pour nous sanctifier nous-mêmes. Veiller, ça veut dire ne pas se relâcher parce que Dieu semble tarder. Ah, on ne dirait pas que c'est maintenant qu'il s'en vient. Donc, on va se relâcher un petit peu, puis on agira pour le Seigneur quand il viendra. Si on se dit être chrétien, on doit agir comme des chrétiens. Vous savez que la manière que vous agissez, ça témoigne de ce que vous croyez. Le savez-vous, ça? Alors, c'est bien beau de professer Jésus, de dire que je crois que Jésus est le Messie, mais concrètement, dans vos vies, ça se traduit comment? Vous avez une tentation de péché, puis vous succombez tout de suite, ou si vous résistez? Un peu, je pose la question. Ce n'est pas pour me répondre là, que je vous demande ça, c'est pour vous répondre à vous-même. Est-ce qu'on croit que, dans les périodes difficiles, Dieu va pourvoir à nos besoins? Est-ce qu'on croit que si on est fidèle, et là, encore une fois, je vais prêcher pour ma paroisse, mais est-ce qu'on croit que si on est fidèle, par exemple, dans nos offrandes, est-ce que Dieu va pourvoir? Est-ce que Dieu va être fidèle? Je donne, est-ce que je m'attends à ce que Dieu va pourvoir à mes besoins? Ou si je donne pas parce que là, j'ai mes REER à prendre, puis j'ai quand même un coussin à me ramasser. On ne sait jamais ce qui peut arriver, hein, la fourmi, il faut être prudent, il faut ramasser. Comprenez-vous que vous n'avez pas à me répondre, là. C'est à vous que vous devez répondre personnellement. Si vous professez le nom de Christ, si vous dites que vous êtes chrétien, dans votre vie de tous les jours, ça doit paraître. Si ça ne paraît pas, vous êtes en droit de vous poser des questions. Puis paraître, ça ne veut pas dire que vous ne péchez pas. Ça veut dire que si vous péchez, vous êtes malheureux de ça, vous êtes triste de ça. Vous demandez pardon au Seigneur, vous voulez changer. Si vous péchez, puis vous n'êtes pas triste. Si le Saint-Esprit ne vient pas mettre une tristesse dans votre cœur lorsque vous péchez, peut-être que vous êtes en droit de vous poser des questions. Est-ce que vous en êtes rendu à aimer votre péché? C'est pas plus grave que ça. Non, notre péché, c'est ça qui a crucifié Christ sur la croix. Moi, je pêche, mais je ne suis pas content d'être ça. Ça ne me rend pas heureux. Ça me rend triste. Puis j'espère que c'est la même chose pour vous. Tite 2, 11, 13. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux désirs de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Donc, en attendant, elle nous enseigne la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux désirs de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. 1 Pierre 4:7, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés, sobres en vue de la prière. Cet aspect de l'attente va revenir constamment dans le Nouveau Testament. Si donc notre espérance, c'est le royaume à venir, ne marchons plus selon les principes de ce monde. Mauvais, n'est-ce pas? 2 Corinthiens 7:1, puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Donc, notre espérance doit nous pousser à quelque chose. À quoi est-ce que notre espérance doit nous pousser? À la sainteté. C'est à ça que l'espérance doit nous pousser. J'espère la vie éternelle, j'espère ce royaume-là. Je ne suis plus intéressé à marcher dans le monde comme le monde marchait. Je dois chercher à marcher dans l'attente, dans l'espérance de ce royaume-là. Ça doit me pousser à la sainteté. L'exhortation est claire. Si ta vie n'est pas en règle, dépêche-toi de la mettre en règle. Parce qu'en attendant le retour du Seigneur, on a des choses à faire, on a des œuvres à faire. 2 Pierre 3, 10-14. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et en ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes? Tout ça, ça va tout être détruit. Attachons-nous pas à ces choses-là. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Ça fait beaucoup de versets qui nous enseignent sur ces choses-là. Qu'est-ce qu'on a donc à faire en attendant? Oui, évidemment, nous sanctifier, va sans dire. Mais au-delà de ça, on a aussi une mission. Et 2 Pierre apporte donc un élément nouveau à ce qu'on vient de dire jusqu'à date. Selon 2 Pierre, on peut hâter l'avènement du jour de Dieu.
Comment ça se dit?
Le jour n'est pas déjà fixé? Ah, c'est pas sûr. On peut le hâter. Peut-être pour ça que Jésus ne savait pas. Ça va dépendre de nous. Quand est-ce qu'il va revenir? Ça se peut-tu? Tu ne penses pas? Ben, je ne sais pas, moi. Si on peut le hâter, ça veut dire que... Hein? Jésus ne savait pas le jour ni l'heure. Le Père le savait. Ah, le Père, on ne peut rien y cacher. Hein? Mais suivez-moi maintenant. Raisonnons ensemble. C'est un fait intéressant que dans Matthieu 24, lorsqu'il nous parle des signes de son avènement, tous ces signes-là sont totalement en dehors de notre contrôle. Vrai? Sauf un. Matthieu 24, versets 4 à 14. Et je vous le lis. Essayez de voir qu'est-ce qui n'est pas dans notre contrôle et essayez de voir qu'est-ce qui est dans notre contrôle. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car personne viendront sous mon nom en disant, « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être alarmés, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura par endroits des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. En raison du progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Puis,
C'est quoi qui est dans notre contrôle? Notre témoignage. Notre témoignage. On doit apporter le témoignage de l'Évangile du royaume à toutes les nations. Alors le Seigneur va revenir. Alors c'est ce dernier verset-là qui parle de notre responsabilité. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Remarquez trois choses dans ce verset-là. Il y a un message, il y a une mission et il y a un motif ou une motivation. Le message, c'est l'Évangile du royaume. La mission, c'est de prêcher pour servir de témoignage à toutes les nations. Et la motivation, c'est que c'est là que le Seigneur va revenir. Quand on va avoir fait notre mission, quand on va avoir fait notre job. Maintenant, par rapport au message, est-ce qu'il y a une différence entre l'Évangile du royaume et l'Évangile du salut? Parce que vous savez, cette appellation Évangile du royaume, pour nous, les chrétiens évangéliques, c'est pas très commun. Hein? On annonce l'Évangile, on n'annonce pas le royaume de Dieu, franchement. Hein? On annonce la repentance, le salut de Jésus, le pardon des péchés en Jésus-Christ, vrai? On annonce-tu l'Évangile ou est-ce qu'on annonce le royaume? Ben oui, c'est les deux. C'est les deux. Jésus puis les apôtres annonçaient le royaume de Dieu. Okay? On pourrait dire qu'ils annonçaient prêcher l'Évangile du royaume et de son roi. Christ est le roi, mais je t'annonce un royaume à venir. Ce qu'on a annoncé, c'est l'Évangile du royaume. C'est sûr qu'on va annoncer Jésus-Christ dans l'Évangile du royaume. C'est la clé, c'est le centre du royaume. On ne peut pas entrer dans le royaume sans lui. Mais c'est le royaume qu'on annonce. Le royaume fut prêché aux Juifs, et quand ils le rejetèrent, ce même royaume a été proclamé aux gentils, aux païens. La bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'était le message de Paul à la fois pour les Juifs et à la fois pour les gentils. Dans Actes 28, 28 à 31, Paul dit, « Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et ils l'écouteront. » Lorsqu'il lui dit cela, les Juifs s'en allèrent en discutant vivement entre eux. Paul demeura 2 ans entiers au domicile qu'il avait loué. Il recevait tous ceux qui venaient le voir et il prêchait quoi? Le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Il annonçait le royaume et son roi en toute assurance et sans empêchement. Le message, donc, c'est le même. Qu'on parle de l'Évangile, qu'on annonce le salut en Jésus, qu'on parle de l'Évangile en parlant du royaume, c'est la même chose. Mais je vous invite à inclure le royaume dans votre prédication de l'Évangile. Parce que c'est notre espérance que le Seigneur revienne établir ce règne-là. Un royaume éternel. Le royaume ou le salut de Jésus, c'est la même bonne nouvelle. Est-ce que l'humanité a besoin de ce message-là? La puissance du royaume de Dieu a envahi cet âge, mes amis. Une puissance qui peut libérer les hommes de l'esclavage du péché. Le royaume de Dieu a envahi cet âge et peut vous libérer de l'esclavage du péché. Est-ce que c'est un beau message, ça? C'est pas de dire, venez, viens au Seigneur Jésus, il va régler tous tes problèmes. Non. Mais viens au Seigneur Jésus, il va régler ton plus gros problème, le péché. Le reste, ce que tu as besoin pour manger, pour dormir, pour vivre, il va te le donner. Puis c'est l'éternité, c'est le royaume qui vient avec. L'Évangile du royaume annonce la victoire de Christ sur la mort, sur ses ennemis. Est-ce que c'est un beau message? Est-ce que ça vous tente d'aller annoncer ce message que le royaume de Dieu, c'est la victoire de Dieu sur ses ennemis? C'est un évangile qui apporte de l'espoir. Donc, quelle est donc cette mission? Les conditions nécessaires pour que la fin vienne, c'est que l'Évangile du royaume soit prêché au monde entier. Et notez la similitude avec ce qu'on appelle la Grande Commission. Qu'est-ce qu'on appelle la Grande Commission? Évangéliser le monde, hein? Jésus, dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Ce message fait aux nations, c'est la mission que Dieu a donnée aux apôtres et aux disciples et à nous. Et c'est ce qu'on doit faire pour hâter la venue du Seigneur. Avez-vous hâte que le Seigneur revienne? Annoncez l'Évangile. Annoncez l'Évangile. D'autant plus si on attend que le dernier païen se convertisse. Hein? Non, mais je dis ça de même, là. Donc, l'Évangile doit donc être prêché, mais ça ne se fera pas tout seul. Cette mission-là a été confiée à qui? À l'Église. Cette bonne nouvelle de la victoire de Christ sur les ennemis de Dieu doit être prêchée dans le monde entier pour porter témoignage auprès de toutes les nations.
Cette mission donne un sens et un but à toute l'histoire humaine, donne un sens à la vie. Pourquoi Dieu, une fois qu'on a été sauvé, nous laisse ici-bas dans la souffrance, dans les persécutions, dans la misère parfois? Parce que la vie chrétienne, c'est pas là, c'est pas une panacée, c'est pas la solution à tous les remèdes, là. Non, à tous les remèdes, non, c'est pas le remède à tous les maux. Hein? Pourquoi Dieu nous laisse sur la terre? Pour notre sanctification, oui, OK. Mais notre mission, c'est-tu de nous... Notre mission, c'est d'annoncer l'Évangile. Annoncer ce royaume de Dieu qui est attendu dans l'Ancien Testament, qui s'est manifesté en Jésus-Christ lors de sa première venue, qui se manifeste maintenant par le règne de Christ au ciel et qui va se manifester aussi au retour de Christ. Il va y avoir un jugement, il va y avoir des nouveaux cieux, une nouvelle terre. C'est notre motivation. En plus de faire la volonté de Dieu, en plus de nous sanctifier, en plus de travailler sur nous, en plus d'avoir cette communion avec Dieu, de goûter déjà la vie éternelle, comme on l'a mentionné, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse lorsqu'on est en communion avec Dieu, on goûte déjà la vie éternelle. En plus de ça, on a une motivation, c'est d'hâter le retour du Seigneur. C'est que lorsque notre mission va être accomplie, le Seigneur va revenir. Quand est-ce qu'il va revenir, le royaume? On n'a pas de date précise, mais il y a des conditions à remplir et on est plus près du but que jamais. Vous savez, aujourd'hui, avec la technologie, il existe de moins en moins de pays qui n'ont pas accès à l'Évangile. Même la Chine s'ouvre malgré elle à l'Évangile. La Bible entière, ou une section significative de la Bible, a été traduite et imprimée en presque 2400 langues ou dialectes. C'est des statistiques qui datent de 2006. Fait qu'on on peut penser qu'il y en a déjà plus que ça aujourd'hui. Représentant 97 % de la population mondiale. Environ 1100 langues en 1959. Voyez-vous la progression? Il y avait 1100 langues en 1959. En 2006, il y avait 2400 langues. C'est fort, hein? La Bible demeure le livre le plus traduit de tous les temps. La Bible, le Nouveau Testament ou des portions des Saintes Écritures étaient disponibles en 2403 langues à la fin de 2005. C'est 26 langues de plus que l'année précédente. La Bible complète est maintenant disponible en 426 langues. Je parle de la Bible complète. Le Nouveau Testament en 1115 langues. Des livres bibliques isolés sont en outre traduits en 862 langues. Et sur le plan mondial, combien il y a de langues? 6500. Je vois que vous avez des notes, hein? Parce que, oui, moi, je ne l'aurais pas su. L'Alliance biblique universelle regroupe 137 sociétés bibliques nationales. Son objectif, c'est la diffusion de la Bible dans le monde entier. Elle contribue actuellement à plus de 600 chantiers de traduction dans 495 langues différentes. Et encore une fois, des statistiques qui datent de 2006. Donc, pour terminer, on a tous hâte, j'espère, au retour du Seigneur. Et on espère l'établissement de son royaume éternel. Vrai? Est-ce qu'on a hâte à ça? Mais en attendant, Dieu nous a confié une mission, celle de proclamer la bonne nouvelle du royaume à toutes les nations. Si on veut porter ce message-là et avoir un impact sur notre génération, notre vie doit être sainte. À l'annoncer l'Évangile puis mener une vie tout croche, c'est pas ce qu'on appelle un bon témoignage, hein? Donc, on doit faire ces efforts-là. On doit constamment chercher à se sanctifier, se détourner du péché. Bref, être un témoignage par nos vies et pas seulement par nos paroles. Matthieu 24, 14 nous dit, « Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Et vous, en ce qui vous concerne, est-ce que vous avez entendu la prédication du royaume? Est-ce que vous êtes entré dans le royaume de Dieu? Est-ce que le Seigneur est votre roi, comme on a vu à la leçon 1? Est-ce que vous êtes soumis à Christ, à ce qu'il vous demande? Ça, c'est des questions que vous devez répondre. Allez annoncer l'Évangile du royaume. Assurez-vous d'être entré dans le royaume avant d'aller l'annoncer. Et 10 minutes à l'avance, c'est terminé pour cette semaine. Ah oui, merci beaucoup. Alors, c'est la dernière, donc, du cours sur le royaume de Dieu. Dimanche prochain, le 18, est-ce qu'il y a un cours?
Oui, il y a un cours. Que je ne vous voie pas manquer l'école du dimanche la semaine prochaine. Je vais donner un cours. Ça va s'appeler « Le retour est déjà là ». Non, ça ne s'appellera pas comme ça. C'est 2012, décembre 2012, la fin du monde. Non, vu que Noël s'en vient, qu'est-ce qui arrive à Noël? C'est quoi Noël? La naissance de qui? De Christ. Puis Christ était qui? Sauveur, Fils de Dieu, Dieu lui-même. Alors, la semaine prochaine, une étude sur la divinité de Christ. Va-tu être bon? J'attendais mon coup de tambour, là, il n'est pas venu. À 9h, comme à l'habitude. Ça va être la dernière, évidemment, de la saison, mais je pense que ça va être très à propos. C'est une belle étude, très, très, très complexe. Vous allez recevoir les notes par courriel. Il va y avoir des notes ici aussi pour tout le monde. Et donc, la semaine prochaine, la divinité de Christ. Gérard? OK, je parle pas trop vite parce que je veux le répéter. Tu veux mentionner quelque chose d'intéressant? Je parlais de la Chine tantôt.
Oui, c'est ça. 15% de la Chine est chrétien évangélique.
Aujourd'hui, tu dis que 15% de la Chine est chrétien évangélique. J'aimerais voir ces d'où tu tiens ces statistiques-là, parce qu'ici, au Québec, on n'a même pas 1% de la population. Oui, oui. Hudson Taylor, Watchman Nee, on... OK. Au moment où il y avait Hudson Taylor et Watchman Nee, donc qui ont poursuivi son œuvre, il y avait des sondages donc, qui auraient été faits, qu'à ce moment-là, il y aurait eu comme 15% des gens.
15%
qui étaient hors la loi parce qu'ils ne vivaient pas selon le communisme et tout ça. Bien, écoute, c'est des statistiques intéressantes. Ça ne devait certainement pas être au niveau national, mais ça pouvait être certainement dans un endroit au niveau local où. Où il existe, où il a œuvré.
Oui.
C'est clair que la Chine aujourd'hui est évangélisée, même si le gouvernement est encore contre cette idée-là, la Chine est évangélisée aujourd'hui, même si elle était complètement fermée. Il reste encore des pays qui sont fermés, mais de moins en moins, puis avec évidemment la technologie, Internet et tout, même si, encore une fois, les États se empêchent les gens d'avoir accès à certains sites, bien, l'Évangile fait quand même son œuvre.
Oui.
Mais je l'ai dit tantôt, Gérard. Oui. Oui. Voilà. Eh bien, merci. Et puis, bon restant, bon culte.